RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La discussion et le débat, ça se fait avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui avec Barbara Lefebvre, Joël Dagosséry et Didier Giraud. Et si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est l'émission et en même temps, sur les petits à côté, les discussions que les grandes gueules peuvent avoir entre elles. Et là, notamment, il y avait une question qui était posée par Anaïs Sens, là, qui demandait si on était plutôt pagaille ou très rangement à la maison. Ça, je vous laisse découvrir ça, bien sûr, dans les podcasts. La dernière heure des GG, de quoi va-t-on parler ? Du pouvoir d'achat. Combien vous manque-t-il par mois pour vivre correctement en fonction de votre situation ? Alors, en moyenne, c'est 506 euros par mois. Voilà ce qui manque aux Français pour vivre correctement. Le scandale du périscolaire parisien. 16 personnes interpellées hier dans la même école. L'école maternelle Saint-Dominique dans le 7e arrondissement n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire dégueulasse. Et puis les affaires judiciaires à gogo, là, pour les politiques, c'est maintenant qu'on en parle au 32-16. Alors, la principale décision judiciaire que l'on attend, c'est pour le début du mois de juillet prochain. C'est l'affaire, vous savez, du financement du Rassemblement National. Ce sera le 7 juillet. Ce sera le procès en appel de Marine Le Pen. Mais en attendant, vous avez d'autres petits dossiers qui s'ouvrent. Dernier en date, Dominique de Villepin et Édouard Philippe.
Oui, le parquet national financier a ouvert une enquête à propos des révélations de Robert Bourgie, qui était venu ici même dans les Grandes Gueules, l'ancien intermédiaire entre la France et l'Afrique, et qui accusait Dominique de Villepin d'avoir reçu des cadeaux de la part de chefs d'État étrangers. Alors Dominique de Villepin, d'ailleurs, depuis a rendu ces cadeaux. Parquet national financier qui ouvre une enquête qui, a priori, est prescrite, si l'on en croit les juristes. Ensuite, il y a le parquet national financier, toujours lui, qui ouvre une enquête sur Édouard Philippe pour détournement de fonds publics. Alors là, on reproche à Édouard Philippe d'avoir peut-être favorisé son adjointe dans l'attribution d'une subvention publique, quand même de 2 millions d'euros, à une association présidée par cette adjointe. On verra ce que dit le parquet national financier. Et puis, tu l'as dit, on attend début juillet de savoir si c'est Bardella ou Le Pen qui représentera le Rassemblement national. La justice est partout, comme par hasard, très présente lorsque la campagne présidentielle démarre. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites, c'est normal, comme ça on sait à qui on a affaire. Ou est-ce qu'on a une fois de plus une campagne qui va être, polluée par ces affaires judiciaires?
Didier?
L'histoire nous prouve que ça a déjà tronqué les choses, quoi. Enfin, moi, je me rappelle quand même de l'histoire Fillon, où pendant des mois, on a fait ça en épisode, en boucle. La mise en examen a été quand même très rapide et puis après plus rien derrière, quoi. On attend.
Après, il a été condamné quand même.
Oui, il a été condamné, mais des années après, quoi. Et si tu veux, on a parlé sur d'autres sujets aujourd'hui de la lenteur de la justice, que c'était un problème, la lenteur de la justice. Aujourd'hui, s'il trouve quelque chose sur Villepin ou sur Édouard Philippe, tu verras que ça va s'affoler, ça va s'emballer, ça va aller très vite jusqu'à la mise en examen et que derrière ça, il y aura un temps de latence avant qu'il y ait un jugement. Et je suis,
ouais,
je
le temps de latence est préjudiciable pour le politique.
Moi, je trouve qu'à un moment donné, le temps de latence qu'il y a pour les citoyens, je vois pas pourquoi il est pas le même pour les politiques quand on est en campagne électorale, quoi. C'est là où tu peux faire un procès d'intention à la justice. Après, il n'y a pas des juges qui ouvrent des dossiers sans raison. Mais je trouve que on peut plomber une carrière politique, on peut plomber une campagne politique avec des choses qui se dégonflent derrière, quoi. Et je dis pas qu'il faut pas que les juges enquêtent sur les politiques, mais à un moment donné, tu te demandes quand même jusqu'à quel point ils sont pas partisans, parce que les enquêtes, elles vont très vite dans un sens et puis beaucoup moins vite dans l'autre, quoi. Et moi, j'en suis quand même à croire que les juges y font de la politique eux aussi.
Joël.
Déjà, il faut quand même rappeler qu'on est dans un régime qui est celui de la séparation des pouvoirs et que dans la séparation des pouvoirs, oui, de moins en moins, oui, il y a une notion qu'on oublie souvent, c'est le contrôle du pouvoir, c'est-à-dire qu'un pouvoir contrôle l'autre. C'est ce qui pour que ce soit bien régulé tout ça. Donc c'est pas des séparations totalement étanches où personne n'empiète sur le terrain de l'autre, au contraire. Donc ceci dit, est-ce que le pouvoir judiciaire contrôle quelque part le pouvoir politique ou l'exécutif? Oui, j'estime que oui. Et oui, c'est aussi son travail. Maintenant, c'est le timing. C'est ça qu'on va se demander. Voilà, pourquoi maintenant? On peut se poser des questions sur ça, mais je m'en pose pas trop parce que moi, je considère que je veux être sauvée des voleurs et des racailles en tout genre. Il y en a pléthore en politique. Donc ça me dérange pas que la justice me débarrasse des racailles. Les racailles, c'est pas toujours en bas des cités. Ça remplit aussi certains palais ici en France. Donc s'il y a des racailles, excuse-moi, quand tu voles des millions d'euros, t'es une racaille, hein, désolé. Faut pas me dire c'est la même chose que les millions d'euros que tu vends en drogue en bas de la cité. Voilà. Donc oui, c'est des racailles. Donc dans les racailles que nous citons, nous avons donc présumés racailles de Villepin, Le Pen et Édouard Philippe. Je me demande lequel des trois va me manquer. Aucun des trois. Très. Si ce n'est peut-être de Villepin parce que je l'écoute le soir. Il raconte des belles histoires, il raconte des livres, oui, sur Twitter, il publie des vidéos où il lit des passages de livres et il raconte un peu voilà ce qui se passe autour du livre.
Alors, du
oui, exactement.
Coup,
ça me fait du bien d'écouter Tonton Villepin. Mais ceci dit, politiquement, ça va pas me manquer. Donc, que la justice fasse son travail. Si Monsieur Philippe, Monsieur Villepin, Madame Le Pen sont coupables, ben, ils n'ont pas à être devant les Français. Je suis désolée, on en a assez eu des gens qui détournent de l'argent. On a assez eu de gens qui ont des accointances bizarres. D'accord. Avec l'étranger, ou des dons en eau des France-Afrique, etc. Il y en a assez eu. Donc voilà, moi j'estime que la justice, qu'elle fasse son travail.
Barbara.
Bah, si on commence à nettoyer les écuries d'Augias, je crois qu'il ne va plus rester grand monde dans le monde politique. Et surtout, il va falloir aussi commencer un peu à les taper de tous les côtés. Parce que quand même, pour l'instant, le PNF a une, on va dire, un petit biais. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être toujours que de ce côté-là qu'il y a de la magouille. Mais comme dirait l'autre, je ne crois pas. Et notamment le financement des partis politiques, je pense qu'il va falloir regarder un peu partout. Parce qu'il y a vraiment des partis qui ne sont pas des partis d'ailleurs, sont des espèces d'associations. Il va falloir regarder quand même un peu comment ils se financent, certains. Je rappellerai quand même que Madame Le Pen, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça a été démontré par la justice. C'est du financement du parti du Rassemblement National par de l'argent européen. Je l'ai déjà dit ici, étant donné l'estime que j'ai pour l'Union européenne, non, je me fous comme de l'an 40, moi, que la France insoumise, Monsieur Bayrou ou le Rassemblement national aient pris de l'argent européen pour financer le parti à l'échelle nationale.
C'est
ça
pas
ne
une
me dérange absolument
hein.
pas. Ça
c'est
ne
pas
me
une
dérange
entreprise,
absolument
elle
pas.
Elle ne crée pas d'argent, l'Europe.
Ça n'a pas été
c'est
fait
le nôtre,
pour leur financement personnel.
Ouais, même, c'est le nôtre. Hein.
Mais c'est de l'argent
pas,
qui est resté
c'est
dans
pas
le
total,
parti.
L'Europe. Hein.
Qui est resté dans le parti pour servir à l'intérêt national. L'LFI s'en est servi pour la gestion nationale.
On
le MoDem pour la gestion nationale.
Ouais.
Et le RN pour la gestion nationale. Donc pour moi, je vois même pas où est le problème. Monsieur de Villepin. Ah, on découvre que Monsieur de Villepin se faisait payer des cadeaux de la France-Afrique et de tant d'autres, parce que Monsieur de Villepin a des activités, notamment dans le Golfe, en particulier au Qatar, sur lequel il ne veut même pas jamais s'expliquer. Preuve en est, quand Apolline de Malherbe lui a rappelé qu'il déposait pas ses bilans comptables, il a expliqué qu'il était pas obligé de le faire, qu'il payait les amendes pour ça. Étonnant, quelqu'un quand même qui ne dépose pas les bilans comptables de son grand cabinet d'avocats international. Bon bref, passons, alors, allons-y. Par contre, on vient lui chercher des noises maintenant qu'il s'approche de la présidentielle. Quant à Monsieur Philippe, c'est une affaire qui date de deux, en tout cas les enquêtes
2020.
Ont commencé en 2023.
Mmh.
Pour une 2020, enquête, pour un problème qui s'est passé en mars 2020.
Voilà.
Je rappelle en deux minutes, la cité numérique du Havre, et il y a un appel à manifestation d'intérêt, c'est ce qu'on dit, hein, pour que des associations notamment s'occupent d'un certain aspect de trucs. Il n'y a qu'une seule association qui a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. C'est celle apparemment donc d'une personne que connaissait Monsieur Philippe. Donc, moi, je suis navrée. Il y a un appel à manifestation d'intérêt. Il y a qu'une seule qui se présente. Bah, c'est elle qui a le marché. Si c'était présenté à 4-5 et que c'était elle qui l'avait eu, peut-être là.
Ça n'ira pas très loin. Ça.
Il va falloir bien qu'il prouve.
Juger.
Bah, Non mais je regarde. Je pourquoi est-ce que sur cet appel à manifestation d'intérêt, alors est-ce que Monsieur Philippe a dissuadé d'autres gens de se présenter? Est-ce qu'il y a eu des magouilles, etc. Ce sera un verra bien. Voix. Oui. N'empêche que.
Non mais 6 ans.
N'empêche que c'est à la veille de la présidentielle.
Non mais c'est ça, c'est que le PNF a pas autre chose à faire. L'histoire dure depuis 6 ans. C'est maintenant qu'on en parle.
Ben voilà.
C'est là où. Voilà.
Et pour Le Pen,
c'est là où il y a un vrai problème.
Et la LFI a le même problème avec l'argent européen et elle, par contre, toujours pas.
Pas les mêmes sommes, dis donc.
Non, ah, c'est pas la même affaire.
Je suis désolé.
On a Paul qui veut intervenir. Fond, Paul de Gironde, bonjour.
Bonjour, effectivement, vous allez bien?
Ça va, Paul?
Ça va, ça va. La situation, elle est gravissime. Moi, je trouve que chez les politiques, tout est gangréné et sur pièce, je peux vous le dire. Là, on voit que la partie visible de l'iceberg, vous prenez la ville d'Édouard-Philippe où justement vous parlez du problème de l'association. Il y a un dossier qui a été jugé ici sur Bordeaux, 10 ans d'instruction. Dans le détail du jugement, ils expliquent comment ils truquaient les appels d'offres. Alors d'aujourd'hui, où nos politiques, que ce soit pour la présidentielle ou locaux, ils doivent être exemplaires. On leur donne l'avenir de la France, l'avenir de nos communes, l'avenir de nos mairies. On a des problèmes de délinquance financière. La procureure Lorbecchio, la procureure de Paris, a expliqué qu'il y avait des chiffres noirs de la délinquance. Elle a expliqué qu'au sein de son parquet, elle a mis en place une cellule pour voir si au sein de la justice, il n'y avait pas de la délinquance, c'est-à-dire il n'y avait pas de la corruption. Elle a fait. Le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, il a fait pareil. Au sein du parquet, il a mis une cellule pour valider les problèmes de corruption.
Ouais, mais là, alors, c'est lié au narcotrafic, ça n'a rien à voir
avec
ça.
Non.
Bah si, là, vous mélangez tout.
La corruption du narcotrafic et des politiques, c'est quand même pas sur le même niveau.
Regardez dans les communes, regardez, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite par le Sénat, sur lequel ils ont interviewé une cinquantaine de pontes de la justice, de la police. Ils expliquent qu'il y a des liens de plus en plus importants. En fait, juste pour prendre du recul, la personne qui a un ADN qui est mafieux, voilà. Elle a un ADN qui est mafieux et dans ce cas-là, elle prend ses avantages partout. Et là, ce qu'il faut pas, il faut prendre du recul. Je suis peut-être un peu en avance sur le timing, mais votre maire, s'il est tordu, votre politique, s'il est tordu, il est tordu.
Voilà. Ouais, mais moi, j'aime pas la façon dont vous généralisez, Paul, en disant en gros, c'est tous des pourris. J'y crois pas une seconde.
Non, je pense
qu'on a une des classes politiques les moins corrompues. Sincèrement, allez voir ce qui se passe dans le monde entier. Il y a beaucoup de corruption, malheureusement, dans la plupart des pays. L'avantage,
on n'est pas hyper bien classé. La loi Sapin 2, c'était pour quelque chose. Tu m'excuseras.
Le problème de ces lois, c'est des lois démagos, parce qu'on pense qu'il faut toujours laver plus blanc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande aux hommes politiques de nous y dire spécialement dans quelle voiture ils roulent. C'est vrai, c'est très intéressant de savoir que tel ministre roule dans une Fiat Panda ou une Peugeot 5008. Tu vois, c'est vrai que ça change tout sur sa compétence.
Non,
c'est ridicule.
C'est pas ce dont on parle.
Après l'affaire Cahuzac, on a voulu laver plus blanc que blanc, et on est allé trop loin, et on le sait bien. Ce qui fait qu'on a un parquet national financier qui a tous les pouvoirs, qui ouvre des enquêtes n'importe comment, sur n'importe qui, qui ouvre des enquêtes sur n'importe quoi, pour justifier non seulement son existence, mais pour demander plus de moyens, parce que si vous les interrogez, ils vont dire mais on n'a pas assez de moyens.
Oui, mais on a quand même.
Ces mecs-là, ils sont incapables de bloquer les avoirs des grands chefs du narcotrafic.
On a quand même des politiques. On a quand même des politiques qui ne sont pas inquiétés. On est d'accord. Par exemple, François Hollande, il est resté des années au pouvoir.
Il devrait être inquiet.
Ça veut bien dire que si t'es inquiété, c'est qu'on a trouvé quelque chose sur toi.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Mais vous êtes grave. Vous résumez la justice à juste, il n'y a pas de fumée sans feu.
C'est ce que tu viens de dire.
Je dis pas ça, je dis juste que c'est pas tous pourris, puisqu'on a des politiques qui ne sont pas pourris, qui ne sont pas inquiétés. Alors, je suis désolée, ceux qui débordent, ils doivent être poursuivis.
On peut te dire que c'est parce qu'ils ont réussi à bien dissimuler leur magouille.
Peut-être, oui, peut-être.
On parle de François Hollande. François Hollande, il a sa société de conseil RDPA. Qui c'est qui le finance? C'est Patrice Pichet, condamné pour corruption, qui est un milliardaire français, qui a augmenté sa fortune d'un milliard d'euros, qui fréquente François Hollande, qui fréquente Philippe Buisson, qui est sur Libourne. C'est quoi? Alors d'aujourd'hui, je vous explique que vous ne voyez qu'une partie de l'iceberg et vous me dites, je dis tous pourris. Non, je dis pas tous pourris. Je dis la justice, elle doit passer. Ils doivent être exemplaires. Alors d'aujourd'hui, tous les dossiers, beaucoup de dossiers ont été étouffés. Alors
Lesquels? C'est moi, j'aime pas la façon dont vous généralisez. Beaucoup de dossiers. Lesquels?
Sur Bordeaux, je vais vous expliquer que l'ancien procureur Frédéric Porterie, qui est devenu procureur général de Poitiers, elle a eu des dossiers dans les mains qu'elle a étouffés. Il y a eu des malversations sur le PLU, le plan local d'urbanisme sur les terrains.
Oui, mais là, pardon Paul, excusez-moi, là, oui. Je suis obligé de vous interrompre parce que vous allez sur un terrain qui est glissant, vous parlez d'affaires dont nous n'avons pas connaissance, vous en parlez en direct, je ne sais pas de quoi vous parlez, et vous mettez en cause des gens, c'est dangereux, faut être prudent, ça peut être de la diffamation, vous avez vos certitudes, mais nous on doit maîtriser les personnes que vous voulez mettre en cause. Donc je suis désolé, je préfère qu'on arrête là, mon cher Paul. On va terminer avec Nicolas du Rhône qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Salut, ça va, le
sapeur-pompier. Est-ce que vous êtes aussi sévère que Paul, alors?
Alors, je suis pas aussi sévère, je suis pas au point de me dire qu'ils sont tous pourris, mais par contre, pour éviter justement qu'on en arrive là dans l'opinion publique, il faudrait peut-être que la justice arrête de se réveiller uniquement, enfin, principalement en période électorale et qu'on utilise du coup ce levier comme un levier de propagande, et plutôt qu'en fait elle soit générale et qu'elle soit permanente. Et déjà à la base, moi je veux dire, quand en tant que pompier je suis fonctionnaire, pour pouvoir être fonctionnaire on me demande de prouver que j'ai un casier judiciaire vierge. Quelqu'un qui est élu aujourd'hui, qui veut se présenter à une élection, on lui demande pas ça. Déjà moi ça je trouve ça hallucinant. Il va nous représenter, ça peut être un escroc, on va lui confier les ronds, on va lui confier notre pognon, quoi. Donc il y a un moment, c'est l'avenir du pays.
Non mais attendez, là je suis pas d'accord avec vous Nicolas. Les condamnations, elles sont publiques.
Ah oui, tout le monde
lorsque monsieur Arnaud, monsieur Quatennens, etc., ou d'autres comment il s'appelle aussi ça, Perdrio là, de le sénateur qui avait voulu droguer sa excusez-moi, il y a même eu un maire qui a été accusé et condamné pour viol, il a été réélu. Donc si les gens considèrent qu'ils ont envie d'élire un dealer, un violeur, un tabasseur.
Mais alors, évidemment, Nicolas, il a raison.
Pas le droit de se présenter.
Mais exactement.
C'est au peuple de décider.
Mais qu'est-ce que vous dites? Il a raison, Nicolas. Bah oui. Bien sûr, c'est éliminatoire.
C'est éliminatoire. C'est pas la même chose.
Un fonctionnaire et un élu, c'est pas la même chose. Un élu, c'est pas un métier. Un fonctionnaire, c'est un métier.
Un élu, c'est pas un métier. T'as raison.
Aujourd'hui, ils n'en ont pas fait
mais
un
métier. Mais
c'est leur problème.
Vous mélangez tout, pardon. Non. Un boulanger ou un facteur, c'est son métier. Voilà. Là, on parle des gens qui se présentent. Un élu, ce n'est pas un métier, c'est une fonction.
Oui,
dans la démocratie, pardon, c'est le peuple qui a le dernier mot.
Exactement.
Les juges ne sont pas élus. Les magistrats ne sont pas élus. En revanche, les lecteurs, c'est lui qui a le dernier mot.
On a les représentants qu'on mérite et qu'on a voulu.
Aujourd'hui, pour être président de la République, on te fait faire une déclaration de patrimoine, mais personne ne te demande ton casier judiciaire.
La démocratie, c'est pas que l'élection. C'est marrant, vous réduisez la démocratie à l'élection, c'est pas vrai. La justice, ça fait partie de la. Les trois pouvoirs font partie de la démocratie.
La justice, elle est démocratique.
Je suis désolée, pour un chauffeur de bus, c'est éliminatoire. Alors que il n'a pas autant de responsabilités, pas autant d'argent à gérer qu'un élu.
L'électeur par lui-même, il n'a qu'à se tenir informé. L'électeur, il a sa libre conscience, il a son libre arbitre, il n'a qu'à s'informer.
Vous voulez des républiques.
On n'a pas été élu.
Il a qu'à s'informer.
Bah oui. Vous voulez des républiques de pourris, c'est ça?
Pas du tout.
Les juges.
Merci Nicolas. Les juges doivent-ils donner le tempo de la présidentielle? Est-ce que ce sont eux qui déterminent la présidentielle? Ça vous met en colère et vous dites oui totalement, mais de manière qui vous énerve justement. Dans un instant, coup de filet dans le périscolaire parisien. Le scandale continue, cette fois-ci 16 personnes en garde à vue dans la même école maternelle. Il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, 11h25 avec Joël Dagosséry, avec Didier Giraud et Barbara Lefebvre. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant, qu'on continue de parler de ce scandale du périscolaire parisien, des violences sexuelles. En fait, on a les gardes à vue qui continuent dans les dernières interpellations du périscolaire parisien. On a 16 personnes qui sont en garde à vue. Et d'après ce que dit le parquet de Paris, plusieurs des individus là qui viennent d'être placés en garde à vue avaient déjà été suspendus dans ces histoires. Donc là, on se demande encore qui est responsable, quelle était la ramification, est-ce que c'était systémique, est-ce que c'était vraiment
un réseau où on se passait le mot.
Alors, c'est l'école Saint-Dominique, école publique à Paris dans le 7e arrondissement qui est concernée là, avec ses 16 gardes à vue, mais l'établissement, il faut le rappeler, n'est pas le seul concerné, puisque des enquêtes ont été ouvertes pour de potentielles violences dans des dizaines d'écoles maternelles et d'élémentaires et des crèches parisiennes. D'ailleurs, la procureure de Paris avait dit que tous les arrondissements parisiens étaient concernés. Donc, c'est une affaire systémique. C'est-à-dire que c'est pas 2-3 cas isolés. Pourquoi? Parce que effectivement, problème de recrutement, visiblement, problème de chefferie en quelque sorte. On ne surveille pas ces animateurs suffisamment. On les sanctionne pas lorsqu'il y a un problème. Pire, certains avaient été démasqués pour des violences sexuelles et pas seulement que des violences sexuelles, il y a aussi des violences verbales, violences physiques. Et au lieu de les mettre dehors définitivement, on les recasait dans d'autres écoles parce qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment d'animateurs. Parce que le périscolaire parisien a une particularité. C'est que on est sur le temps scolaire de la loi Peillon 2013, alors que partout quasiment en France, on a changé, mais on est resté sur un rythme où effectivement, faut occuper les enfants davantage en périscolaire. Il y a plus de temps libre, et donc il faut des animateurs. Et à l'échelle parisienne, il faut des dizaines de milliers d'animateurs. Ils n'y arrivent pas à recruter parce que c'est pas très bien payé, parce que c'est des horaires fractionnés, etc. Donc on a embauché un peu n'importe qui, on n'a pas contrôlé, et certains même qui sont sur ce dossier soupçonnent des pédocriminels de s'être finalement passé le mot en disant c'est facile de se faire embaucher et d'être près de nos victimes.
Qu'est-ce que vous en dites, Joël?
Mais c'est évident qu'ils se sont passé le mot. Et c'est dramatique qu'on puisse se passer le mot sur des écoles en disant bah vas-y, tu vas voir, c'est simple, c'est facile, ils cherchent, ils recrutent du monde, etc. Moi, ça fait 10 ans que je navigue, je me suis jamais fait prendre. Enfin, j'imagine ce qu'ils ont pu se dire. Écoute, c'est infesté. Là, à ce niveau-là, désolée de faire ce parallèle, mais je vois ça comme des cafards. En fait, c'est infesté. Les écoles parisiennes sont infestées, enfin le périscolaire en tout cas, de pédocriminels. Enfin, ça va aller jusqu'où comme ça? Moi, je veux dire, je sais pas si on était aux États-Unis, mais putain, mais c'est class action direct. Mais direct, tu portes plainte contre la ville. Mais complètement, tu portes plainte contre la ville. Contre la ville, la ville doit payer des millions et des millions d'euros à toutes ces familles qui ont fait confiance au périscolaire, à la ville de Paris, pour confier leurs gamins pendant qu'ils étaient à l'école, et ces gamins qui se sont fait soit toucher, soit violenter, soit violer. Enfin, on est où là? Enfin, je n'attends juste que ça, que les familles se regroupent et qu'elles portent plainte contre cette ville.
Barbara.
Sur la totalité des enquêtes pour violence, etc., c'est à peu près un tiers qui sont à caractère sexuel. Les deux tiers, du reste, c'est des violences verbales, des intimidations. Parce que vraiment, moi, on l'avait vu d'ailleurs, je crois que c'était dans la caméra cachée, là, de Élise Lucet, mais il y a eu d'autres témoignages, cache l'investigation. On voyait vraiment comment certains, je sais même pas comment on appelle ça, parlaient aux enfants, mais avec, d'abord, le niveau de vocabulaire et de syntaxe des soi-disant animateurs du périscolaire, je préfère même rien dire, mais en plus, parlaient extrêmement violemment aux petits, surtout aux plus petits. Parce qu'ils s'en prennent particulièrement aux maternelles. Là où l'enfant peut le moins parler. Là où l'enfant peut le plus avoir une parole qui est difficile à décrypter parce que lui-même, il n'arrive pas à analyser ce qui lui est arrivé. Et c'est ce que disent tous les parents. Parce que les cas sur les petites filles ou les petits garçons de 8, 9, 10 ans, c'est beaucoup plus rapide pour enquêter. Mais là, aujourd'hui, tout parent qui a son enfant à Paris et qui en particulier a des enfants qui ont été mis en maternelle, en périscolaire, moi, je vous le dis honnêtement, si j'étais mère aujourd'hui, c'était ma fille... Je n'endormirai plus la nuit. C'est bien simple, je n'endormirai plus la nuit. Je pense que je me serais déjà d'ailleurs enchaînée aux grilles de l'hôtel de ville, parce que je peux vous dire que le Grégoire, il passerait pas une nuit tranquille. Moi, je serais enchaînée aux grilles. Parce que là, et je trouve vraiment que les parents d'élèves qui se sont regroupés en association sont exemplaires. Ils sont d'un calme. La dame, je crois qu'elle s'appelle Anne, qui vient parler pour les parents, etc.
Oui, le... SOS périscolaire.
SOS périscolaire. Elle est toujours très calme, très posée, factuelle. Je les admire. Je ne pourrais pas avoir ce calme-là. Donc aujourd'hui,
alors la mairie dit avoir pris des mesures, notamment mettre de l'argent sur la table, 80 millions d'euros, une prise en compte.
Oui, la convention citoyenne
Il y a une convention citoyenne. Emmanuel Grégoire a été voir l'école du 7e arrondissement, s'est excusé auprès des parents d'un geste qui a été apprécié.
Voilà. Bon, moi, je m'en fous de tout ça. Les enfants ont été violentés. Il y a aujourd'hui des victimes. Ils vont devoir vivre avec ça. J'appelle tous les parents maintenant à faire attention dans toutes les villes de France. à ce qui se passe dans les centres de loisirs, à ce qui se passe dans le périscolaire. Les parents doivent connaître, doivent avoir le trombinoscope, le nom et le prénom de tous les animateurs. Ça doit être une loi qui doit passer. On ne peut pas laisser son enfant en centre de loisirs et en périscolaire sans connaître le nom, le prénom de l'animateur qui s'occupera de votre enfant. C'est une obligation.
Didier. Voilà. J'ai Bilal au 32-16 avant Didier, qui a été animateur à Paris, justement. Bonjour Bilal. Parce que vous voulez nous parler de votre expérience personnelle, Bilal, allez-y.
Oui, je vais faire très rapide. Il y a 20 ans de ça, j'ai obtenu un diplôme et j'ai travaillé dans l'école où j'étais petit. Donc c'était une fierté pour moi. Et arrivé là-bas, j'ai vu le directeur qui avait une pédagogie. Je ne comprenais pas sa pédagogie, en fait. Il n'y avait pas de sanctions réparatrices. Par exemple, si un enfant casse une tour de carrelage à notre enfant, pour moi, il faut réparer ensemble et discuter. Lui, il n'y avait pas de ça avec lui, c'était du n'importe quoi. Et il avait des comportements assez bizarres, assez troublants. Et moi, je lui dis à ce directeur-là, je n'aime pas du tout au bout de deux mois. Je dis, je n'aime pas ce que tu fais, ta pédagogie, je ne la comprends pas. Donc, je ne vais pas dans ton sens, en fait. Ça ne me plaît pas et il faut qu'on en discute. Et je suis revenu de vacances, une semaine après, il m'a dit, écoute, pour ton bien, il faut que tu puisses partir. Je dis, je vais partir, mais j'aime pas ce que tu fais avec les enfants. T'es pas quelqu'un de bien pour eux. Et j'apprécie pas. Et il s'avère que quand je suis parti, 3 mois après, j'ai croisé des collègues qui m'ont dit, écoute, t'avais raison, on est désolé. C'est-à-dire, il a été condamné pour pédophilie envers son beau-fils. Et d'autres enfants, il y a eu des attouchements avec d'autres enfants qui sont remontés. Et certains responsables à la mairie de Paris, très haut placé, ils avaient des échos et ils l'ont laissé directeur dans une école. Ils l'ont laissé. Et pourtant, ils savaient.
C'était quelle école ? Des échos.
On peut trouver, je ne vais pas dire son nom, etc. On peut,
non, pas le nom de la personne. Mais, l'école.
Vingtaine, mais vous dites que c'était il y a une vingtaine d'années.
Oui, il y a 20 ans. Oh, il y a 20 ans, on peut trouver son nom. Il a été condamné en 2007.
Donc ça remonte, effectivement, à ce scandale.
Et du coup,
donc finalement, vous n'avez pas été étonné par ce scandale qui aujourd'hui a éclaté.
Je suis pas étonné parce qu'à Paris, ils embauchent n'importe qui. Il y a eu une émission il y a pas longtemps qui montrait les dérives dans l'animation à Paris. Tout le monde l'a vu, je pense.
C'est cinq minutes d'entretien.
Le vrai procès à faire, il doit être là. En fait.
Vous savez, pour les profs,
sur ceux qui recrutent.
Ils mettent, j'avais un adjoint qui était son adjoint à lui, qui ne parlait pas. Bon, c'est pas une reproche, hein. Moi, je suis maghrébin et je suis français. Mais il ne parlait pas bien français, on ne comprenait pas ce qu'il disait, il n'y avait pas de pédagogie, on ne savait pas où on allait. Et il répétait seulement ce que le chef disait. C'était une catastrophe. Je lui dis, mais toi, t'en penses quoi ? Il me dit, le chef, il a dit ça. Je lui dis, mais écoute, c'est pas question que le chef, il a dit ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Il ne pouvait pas communiquer avec nous. Ils embauchaient n'importe qui, ils embauchaient le premier personne. On prenait un mécano, on le passe adjoint. On prenait n'importe qui à Paris, on prenait n'importe qui, devenu animateur, on le met c'est une catastrophe. J'ai vu des choses, j'ai vu des animateurs qui n'avaient pas leur place, ils criaient sur les enfants. Je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que
depuis. Et c'est vous, non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Bilal, c'est que quand vous faisiez des remarques et que vous avez dit que vous n'étiez pas content de ce qui se passait, que vous sentiez. On vous a déplacé, c'est
comme
ça.
Comme toujours.
C'est-à-dire, c'est le.
Vous êtes retrouvé mécanicien, donc.
Pas de vague.
Didier. Non, mais moi, ce qui. Enfin, c'est quand même compliqué de parler de ces sujets-là tant qu'on ne sait pas le fond de l'affaire. C'est sûr qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'affaire. Je pense quand même qu'il faut que la justice, elle tire la pelote de laine maintenant, quoi. Et ce genre de témoignage doit nous amener à des condamnations de gens très haut placés qui ont couvert. Parce que ça soit devenu un repère de pédophiles, parce que les pédophiles se sont passés le mot, c'est une chose. Mais à mon avis, il faut aller chercher les responsables qui ont couvert. Parce qu'il y a des gens haut placés dans la territoriale municipale, je dirais, qui ont su, qui ont déplacé des gens, qui ont peut-être étouffé, quoi. Et à un moment donné, les vrais responsables, c'est ceux-là. On peut faire le procès du manque de recrutement, du manque d'animateurs, du fait que la fonction n'est pas attractive, mais en même temps, c'est ceux qui embauchent qui sont responsables.
Oui.
C'est
Grégoire.
Ceux qui embauchent et c'est ceux qui recasent des faits qui ont été dénoncés.
Et je te rappelle que Monsieur Grégoire était adjoint à l'équivalent de la DRH de Paris pendant les années Hidalgo. Donc Monsieur Grégoire a une responsabilité direct. Ouais, c'est pas, il s'occupait pas des espaces verts.
Merci Bilal d'avoir été avec nous, de ce témoignage ô combien intéressant de ce que vous nous avez raconté. On termine l'émission avec vous, là, dans 3 minutes, avec les GG, avec Joël Dagosséry, Barbara Lefebvre et Didier Giraud. Et cette étude, en fait, pour les Français, en moyenne, il manque 506 euros en ce moment pour terminer le mois, pour être, pour boucler votre mois, pour être même pas à l'aise, hein, juste pour être sur le fil. Combien vous manque-t-il par mois? C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les grandes gueules. Il est midi moins 25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
L'école spéciale. Je regarde encore les réactions là qui sont sur notre WhatsApp. Là, ça concerne pas tellement le périscolaire, mais c'était notre discussion que nous avions avant sur la justice et les responsables politiques. Il y a Nicolas qui nous dit Villepin n'a touché aucun cadeau de la France-Afrique, mais rappelez-vous quand même dans cette histoire, il a été le bras armé de Jacques Chirac, le fossoyeur de la France-Afrique. Est-ce que dit-il, c'est plutôt ça qu'il faut voir? Fred, lui, avec un pouce levé, m'écrit, il y a Robert Bourgie, on peut toujours compter sur lui. On a Ali qui nous dit, toutes les affaires vont pas aller bien loin, on est dans la déstabilisation politique, mais les personnes qui ont ces candidats en tête comme moi, je peux en avoir un, mais je ne changerai pas d'avis, parce que j'estime que quand on les envoie au feu comme ça, c'est parce qu'ils font peur par leur programme et qu'ils dérangent. Et puis Olivier qui nous écrit, pas d'enrichissement personnel. Ben voyons, le parti finance quand même la vie du candidat, les déplacements du candidat, les restaurants du candidat, le chauffeur du candidat, la voiture du candidat, les vêtements. Mais on ne parle pas d'enrichissement, tu parles.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On va s'intéresser maintenant avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud et Joël Dagosséry, surtout avec vous au 32-16, à un sondage Elab BFM TV sur ce qu'il manque aux Français pour vivre convenablement. 5 sondages est là pour BFM TV, donc, et qui démontre que pour 67% des Français interrogés, il manque de l'argent, je dis bien, pour vivre convenablement et pour couvrir correctement les dépenses annuelles. Et la moyenne, si vous voulez, pour vivre correctement et couvrir ces dépenses, c'est 506 euros par mois.
Oui, il n'y a qu'un tiers des Français interrogés qui disent qu'ils ont suffisamment d'argent sur leur compte. Alors, en général, c'est plutôt les cadres, bien entendu, mais effectivement, une majorité, 67%, pensent qu'il leur manque de l'argent chaque mois et il y a une moyenne. Alors, bien sûr, ça tombe sur 506 euros. C'est d'ailleurs une moyenne qui est assez constante, hein, parce que je regardais les années précédentes, on est toujours autour de 500 euros. Voilà, il manque les fameux 500 euros pour pouvoir simplement finir le mois. On voit que le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français. Alors, est-ce que vous, ces 500, est-ce que vous avez calculé qu'est-ce qui vous manque pour être bien, quoi, en fait?
Ou peut-être vous manque-t-il rien, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est au 32-16 qu'on en parle, yeah. Joël.
L'herbe du près d'à côté est toujours plus verte. Oui, la preuve, c'est que les Français, depuis un mois et demi, se plaignent du pouvoir d'achat, de la crise, de la guerre en Irak qui aggrave le problème de carburant et patati et patata. Puis quand tu regardes, tous les ans, c'est 500 euros. Ça veut dire que les 500 euros, c'est toujours le prix de la frustration par rapport à ce que tu gagnes. Voilà, c'est ça. Tu peux gagner 100 000 ou tu peux gagner 1000. Eh ben, il te manque toujours 500 euros.
Même quand tu gagnes 100 000.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, le Français est ainsi fait que son statut ne lui va pas. Et celui qui gagne 500 euros de plus que lui, c'est quand même mieux, quoi. Voilà, quel que soit ce qu'il gagne. Et parce que, Olivier, tu l'as dit, tu prends les chiffres, et je l'avais fait, tous les ans, c'est 502, 504, ouais, 506, ouais. Depuis 10 ans, quel que soit le marasme ou le non-marasme économique. Donc, je trouve que...
Bah, c'est peut-être le marasme économique depuis 10 ou 20 ans.
Non,
parce que...
mais ce calcul-là, il est stupide. Ah, oui. C'est juste la frustration des gens. C'est juste...
que la frustration, c'est pas vraiment... Pardon, mais on rencontre quand même beaucoup de gens qui disent qu'une fois qu'ils ont tout payé, les charges contraintes...
Bien sûr, mais il y a quoi dans les charges contraintes? Je vais faire encore une fois le même plaidoyer. Il y a quoi dans tes charges contraintes? Plaidoyer. Il y a quoi dans ces charges contraintes?
Sur du plaidoyer.
Mais n'importe quoi, j'ai dit plaidoyer depuis le début. Vous dites n'importe quoi.
Depuis le début.
À la syllabe près.
J'ai perdu ce que je voulais dire.
Un budget, oui, c'est ça. Un budget, c'est d'abord faire des choix, quoi.
C'est vrai.
Et à un moment donné, dans ces gens qui déclarent qu'il leur manque 500 euros, ils ont 300 euros de Netflix par an. Tu peux vivre sans Netflix, je suis désolé. J'ai été acheter cette semaine un portable neuf que j'ai dans ma poche à 309 euros. Et ben, il y a les mecs qui achètent un portable à 2000 à côté de toi. Et à un moment donné, tu.
Oui, ben, aujourd'hui. C'est pas obligé d'avoir un portable à 2000.
Mais bien sûr qu'il y a des gens qui.
Mais ça fait partie des charges contraintes, le portable. Tu peux pas, c'est pas.
T'as quand même un abonnement.
C'est vraiment sincèrement
entre
Didier.
Entre 300 et 2000, Olivier.
Mais je te dis, t'es pas obligé de faire 2000.
Et ton budget, c'est pas le même à la fin de l'année, ouais, quoi, quand même.
Je crois que Didier a quand même en partie raison, parce que sinon, pourquoi il y aurait, l'Apple 17, l'Apple 18, l'Apple 19? Pourquoi il y aurait des gens qui, deviendraient complètement excités dans un centre commercial pour s'acheter une montre dégueulasse qui ressemble à rien, mais il faut quand même se bousculer pour l'avoir. Moi, je sais pas à quoi ça sert d'aller se bousculer. Et moi, en l'occurrence, j'ai vu les vidéos de ceux qui se bousculaient. J'ai pas l'impression que ce soit des gens qui avaient vraiment besoin de cette montre. Je parle même pas des semi-émeutes dans des centres commerciaux pour s'acheter des pâtisseries, comment ils appellent ça, la trompe-l'œil. Non, mais n'importe quoi. T'as besoin de faire une mini-émeute dans un centre commercial pour t'acheter des pâtisseries.
Mais t'as besoin de 500 euros.
Il existe quelque part. Allez regarder votre feuille de paye. Il est entre le salaire brut et le salaire net. Ils sont là, les 500 balles. Vrai, alors, les 500 balles, moi, chez Huisson, ils sont à Bercy. Donc, c'est eux qui doivent nous les rendre.
Non, ils sont redistribués à des gens qui ne vont pas au boulot aussi.
C'est ça.
Il y a aussi ça qu'il faut dire.
Ils ne restent pas à Bercy, c'est la redistribution.
Bercy les collecte pour les donner à des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas comme il faut. Maintenant, moi, je suis désolée. Tu nous demandais, est-ce que nous, on a besoin de 500 euros? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai la chance d'être propriétaire. Si je n'étais pas propriétaire, avec l'argent que j'ai et les frais que j'ai, oui, j'aurais des. Ce serait difficile. Mais à partir du moment où tu es propriétaire, je suis désolée.
Sans crédit alors.
Sans crédit.
Voilà.
C'est
une éducation.
Ce qui tue les gens,
été éduqué à faire avec ce que t'avais.
Ce qui tue les gens, c'est le logement aujourd'hui. Didier, t'habites en Saône-et-Loire.
Pardon. Et alors?
Les jeunes
vivent en région parisienne.
Un jeune prof.
T'es pas obligé de vivre en région parisienne. D'accord.
Alors, attends.
Tout le monde n'est pas agriculteur.
Alors, je vais te donner un exemple. Un jeune prof qui vient de ton bourg.
Le boulot, il est dans les villes.
Qui vient d'avoir son concours. Cours. La première mutation qu'il a, c'est Paris-Versailles-Créteil. Ben il n'y a pas le choix, il ne peut pas être prof en Saône-et-Loire, il n'y a pas de poste. Il va être obligé, avec son début de poste à 1800 balles par mois, il est obligé de se louer
le boulot,
un petit studio.
Il est dans les zones urbaines.
Il va se louer un petit studio tout pourri en région parisienne.
Non, c'est pas nous.
Mais si, bien
la métropolisation, c'est pas nous qui l'avons décidé. Et le fait que le bassin d'emploi, par exemple, pour un prof, excuse-moi, tu arrives avec ton premier salaire à 1800 balles, il faut te loger à Paris. Comment tu fais?
Jonathan, bonjour.
Le logement, c'est ça le problème. C'est
est-ce
le
que, Jonathan, vous faites partie de ceux qui ont besoin de 500 euros pour vivre ou pas?
Non, mais on y arrive.
Comment?
On y arrive parce qu'on travaille beaucoup.
Voilà.
Mm-hmm. On travaille beaucoup, on n'a pas forcément des grosses mensualités. On a une maison de 750 balles par mois. Les enfants n'ont pas de téléphone portable, du moins pas avant 15 ans. Ils ont un petit forfait. Ils n'ont pas des iPhones à 10 ans, voire deux iPhones à 10 ans à l'école.
Tout ça
se paye.
Eh oui. Mmh. Et ils les ont tous, les iPhones. Je peux vous le dire dans les collèges.
Et vous avez. Dans ma vie, j'aurais consommé moins de fringues que Joël en une semaine.
Voilà. D'accord. Mais
qu'est-ce que. À l'attaque.
Mais attendez.
C'est des choix. Oui, mais budget.
Incroyable.
Attendez, Jonathan. C'était fort. Parce que là, vous nous appelez de Saint-Aubin-la-Plaine en Vendée aussi, c'est ça?
Alors, c'est là où j'habite, mais non, je suis pas là, je suis à Caen.
D'accord, mais j'imagine que, je sais pas, vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, les loyers sont pas les mêmes non plus que dans les grandes villes, les dépenses non plus.
On fait des choix.
Oui.
On fait des choix. Quand on n'a pas les moyens d'habiter à Paris, on n'habite pas à Paris.
Oui, alors Jonathan, parce que là Didier vous dit la même chose.
Oui.
Déjà à Paris, il y a plus grand monde qui peut aller à Paris parce que il faut être riche pour vivre à Paris.
C'est que les gens n'habitent plus à Paris.
Mais les gens vivent dans des zones urbaines parce que c'est là où il y a le boulot. Pardon, je suis désolé.
Mais il y a des gens qui font une heure de route pour aller au boulot,
pourquoi
c'est
ils font
une vie, hein.
Et ben parce qu'ils peuvent pas habiter au centre-ville de Dijon. Voilà.
Bah oui, bah donc c'est bien ce que tu dis. Et on vit dans les zones urbaines parce que c'est trop cher. Donc on s'éloigne de plus en plus du lieu de travail et donc ça coûte cher.
Bah oui, toi ça coûte cher en carburant par exemple.
Pas de carburant pour aller bosser. Tu travailles à la ferme.
Mais moi, j'ai des voisins qui vont travailler tous les jours à Dijon.
Bah oui.
Et bah oui,
j'ai une compagne qui va travailler tous les jours à Dijon.
Bah oui.
Et à un moment donné, votre coût du logement, votre coût du logement qui est très cher en zone urbaine, eh ben tu alors peut-être que tu le convertis et peut-être qu'avec du gasoil à 2,30€ c'est un problème. Oui. Mais à un moment donné, il y a des gens qui aujourd'hui
faire 2 heures de route pour aller bosser, je suis pas sûr que ça soit idéal dans la vie.
Et je peux te dire que moi j'ai des collègues, ils font 1h45 de voiture tous les jours pour venir bosser parce qu'ils peuvent pas habiter là où est le collège, ils sont obligés d'habiter à l'autre bout.
Quand je dis faut faire
la région parisienne,
ce que dit le routier qu'on vient d'avoir.
Ils n'ont pas choisi parce qu'ils auraient préféré avoir leur poste dans leur région d'origine.
Jonathan dit on fait des choix, on arbitre, on fait des économies et on travaille surtout.
On travaille tout à fait. Moi, à titre personnel, pour vivre correctement, il me manque 3 millions d'euros. Donc, je veux dire, je suis pas. 500 euros, c'est pas assez pour la vie que j'envisage. Donc, moi, je crois profondément que le fait de se dire qu'il ne manque que 500 euros, ça va pas nous aider à sortir le pays du marasme, parce que en fait, en gros, tu vois trop petit, donc tu te contentes de trop petit. Et Barbara a raison. Les gens ne manquent pas de 500 euros puisqu'ils votent pour la retraite à 62 ans, puisqu'ils sont contents de voter pour des politiques qui continuent de te prélever tout ton salaire. Voilà. Donc non, ils n'en manquent pas. Mais par contre, Barbara, tu vois, t'offusquais des gens qui font la queue pour acheter des montres, ben moi ces gens-là, ils ont raison parce que ces montres-là, elles se revendent cher, ce sont des investisseurs. Oui,
c'est voilà. Pas du tout. Des montres en série,
Ça se revend et déjà
Brutti pour acheter
déjà
c'est pas vrai du tout.
Cette montre ne se vend pas dans tous les pays. Cette montre, moi je suis allée voir avec mon chien, on est parti voir sur StockX là où tu peux revendre, ben la montre elle se revend à 2000 euros. Donc oui, c'est un investissement. Et les Français ont raison. Les Français, et c'est ça le travail, comme il disait notre auditeur. C'est ça le travail. Le travail, c'est pas juste d'aller dans son travail régulier, c'est de se creuser les méninges pour se faire de l'argent et d'aller sur de telles opportunités. Et ils ont bien raison d'aller faire la queue pour aller gagner 2000 euros.
Merci à tous. C'est vous qui aurez conclu les GG aujourd'hui. Merci Barbara, Joël et Didier. On se retrouve demain avec Laura Barton-Martinez, Mourad Boudjella, La Belle Boyi. Et nous serons avec Fabien Antoniente. Antoniente, c'est le réalisateur. Le réalisateur du mythique Camping Jet Set 3-0.
4-0.
Et ce qu'il raconte, c'est son itinéraire. Il dit, je suis parti du HLM jusqu'au cinéma. Il dit, j'ai une vie incroyable. Et ce serait intéressant d'entendre là dans la bagarre en ce moment dans le cinéma français, voir ce qu'il
en pense. Est-ce qu'il aurait signé la tribune anti-Bolloré?
Fabien Antoniente. Voilà. Rendez-vous demain. Bonjour Estelle Denis.
Bonjour Alain, bonjour les GG. On va parler bien sûr de Sébastien Lecornu qui présente de nouvelles aides, enfin peut-être, des aides carburant cet après-midi à 17h. Mais est-ce qu'il faut aider tout le monde? Est-ce qu'il faut aider personne? Est-ce qu'il faut aider ciblé? Eh bien écoutez, c'est la question qu'on vous pose dans un instant. Dans Estelle Midi, on parlera, bien évidemment, je vous ai entendu tout à l'heure, mais de la proposition de Sandrine Rousseau de renommer les steaks en cadavres d'animaux. On a Daniel Riolo avec nous, donc voilà, on avait envie d'entendre Daniel Riolo là-dessus. Bonne
ça risque d'être idée. Mesuré.
Ça va être sanglant. Ce sera c'est à niant. Midi et demi. Saignant, bien sûr.
Vous savez quand
sanglant. Vous savez qu'en juin,
pour les cadavres, c'est sanglant.
Il y a la transparence des salaires en entreprise. En fait, toutes les entreprises seront obligées de publier des grilles de salaire pour qu'on sache les employés sachent
enfin
à peu près
connaître le salaire d'Alain Marchal.
Alors, tu le connaîtras pas parce qu'il y aura une grille. En revanche, aux États-Unis, il y a une entreprise qui allait encore plus loin et qui a publié sur Internet tous les salaires des collaborateurs.
Ah bon ?
Ben oui, parce qu'en fait, ça permet aussi aux nouveaux dans l'entreprise de savoir combien ils vont être payés ou pas. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? On en parle à 13h30. Et puis enfin, vous savez que Bison Futé voit rouge à partir de demain sur les routes, car c'est le pont de la Pentecôte.
Ah merde, mais on travaille pas, au prix du gasoil.
Écoutez, il n'y a pas école. Donc voilà.
Parce que lundi de Pentecôte, c'était censé.
La mairie de Paris, nous avons vérifié, bizarrement, est fermée. Lundi de Pentecôte.
Il confirme à l'éducation nationale.
Pourquoi les gens vont partir alors qu'ils ne peuvent pas se payer de l'essence?
Explique-moi,
comment ils vont faire pour partir?
Attendez, je vais me poser la question. En fait, il y a 4 jours fériés, donc 4 ponts en mai. C'est le mois des bouchons. Pour vous, le mois de mai, est-ce que c'est l'enfer parce que tout est désorganisé, ou est-ce que c'est le paradis parce que c'est déjà l'été? Ça, on en parle à 14h.
Il va faire très
beau ce week-end. 30 degrés. Même en Bretagne. Tu préfères série policière ou série médicale?
Ça peut être médical si c'est vraiment bien fait.
Extraordinaire. Alors.
Ouais, non, mais quand même médical.
Médicale.
Hippocrate, c'est génial.
Hippocrate, c'est génial, bien sûr.
Urgence,
Docteur House, c'était génial.
Le commissaire Maigret avec Jean Richard.
Ah oui.
Ok, bon, bah super. Et moi, je vais tirer le compte avec ma grand-mère.
Allez, 32-16 pour en parler avec Christelle.